Radio Prague, les informations.
Bienvenue à l'écoute d'Alexis Rosenzweig. Au micro pour le bulletin dont voici les titres. C'est la fête nationale ce mardi 28 septembre à l'occasion de la Saint-Venceslas en République tchèque. Les pluies font monter le niveau des rivières à nouveau en Bohême. Et puis des grèves poussent la compagnie CSA à annuler des vols vers la Belgique et l'Espagne. Ce mardi 28 septembre était donc un jour férié en République tchèque à l'occasion de la Saint-Venceslas, la fête nationale en l'honneur du saint patron de la Bohême, Venceslas ou Václav en tchèque. Une messe s'est déroulée dans la petite ville de Stará Boleslav où Venceslas fut assassiné au cours de la première moitié du Xe siècle. Une messe en présence du président de la République, Václav Klaus, et de son épouse. Environ 700 personnes ont pris part aux festivités. Ils avaient été 50 000 l'année dernière à la même date lors de la célébration d'une messe à Stará Boleslav par le pape Benoît XVI. Toutes les villes de République tchèque célébreront à leur façon le saint patron. À noter également que jusqu'au 5 octobre se déroule dans la région d'Ostrava la 19e édition du festival intitulé Les Fêtes de la Saint-Venceslas, un festival de l'art spirituel. Et puis dans le cadre de ces festivités organisées à l'occasion de la Saint-Venceslas, il y a également ce mardi soir la projection au Rudolfinum de Prague d'un film muet vieux de 80 ans et intitulé Le Saint-Venceslas. Je vous disais en titre, le nord de la République tchèque, plus précisément les régions de Liberec et d'Ústí nad Labem, a été placé lundi en état d'alerte face au risque d'inondation. Les fortes pluies qui touchent la République tchèque depuis samedi ont fait monter le niveau de 4 rivières locales. Certaines routes dans la région de Liberec ont d'ailleurs été inondées. Et dans certaines localités où le niveau d'alerte maximale a été décrété, une vingtaine de riverains ont dû être évacués de leur foyer en fin de journée, notamment dans la région de Friedland. Le nord du pays, rappelons-le, avait déjà été touché par de violentes inondations. C'était au mois d'août dernier. Aviation, plusieurs vols ont été annulés ce mardi entre Prague et Bruxelles en raison de la grève des aiguilleurs du ciel en Belgique. Des vols à destination de Charleroi, un aéroport utilisé par certaines compagnies low cost, étaient également menacés d'annulation mardi soir. Au moins 2 vols CSA entre Prague et Bruxelles ont été annulés mardi après-midi. La compagnie aérienne tchèque a également décidé d'annuler ses vols de mardi soir à destination de Madrid et Barcelone, et ce en raison de la grève générale prévue ce mercredi en Espagne. Le trafic devrait reprendre mercredi soir. Un mot sur la météo. Une météo, je vous le disais, pas terrible, on peut dire même pourrie en République tchèque. Et la pluie qui devrait continuer à tomber au moins jusqu'à mercredi. Des températures maximales toujours inférieures aux normales saisonnières, comprises entre 10 et 14 degrés Celsius. On espère une amélioration pour la fin de la semaine. La suite du programme en français vous est présentée par Alena Gebertova et il s'agit d'un programme spécial à l'occasion de la Saint-Venceslas. Quant à moi, je vous retrouve juste après, dans environ un quart d'heure, pour un programme spécial consacré cette fois-ci au manque de places dans les écoles maternelles de République tchèque.
Ce 28 septembre est en République tchèque le jour de la fête nationale consacrée à Saint Venceslas, en tchèque Václav, prince Přemyslide qui a vécu probablement entre 907 et 935 et qui est perçu dans la conscience nationale comme un symbole de l'État tchèque et comme son patron. Nous vous proposons une émission spéciale composée d'extraits de plusieurs programmes que nous avons précédemment préparés à cette occasion. Selon la légende, Venceslas a été assassiné à Stará Boleslav, à l'entrée de l'ancienne rotonde Saint-Cosme et Saint-Damien, aujourd'hui inexistante. Dans la basilique Saint-Venceslas érigée à sa place vers 1052, le lieu du martyr est marqué par un groupe de statues de Matthias Bernhard Braun. L'assassinat de Venceslas, trop pieux et trop faible aux yeux de son frère Boleslav, puisqu'il avait conclu un pacte de non-agression avec la Saxe voisine qui menaçait d'envahir la Bohême, acte incompris au Moyen-Âge, a ouvert à Boleslav la voie vers la prise de pouvoir et l'extension du règne des Przemyslides jusqu'à la Pologne actuelle. Le culte de Saint Wenceslas se diffuse de Stara Boleslav, ville située à une trentaine de kilomètres de Prague, à partir de la fin du Xe siècle. Pour en savoir plus, Jarka Gusubrova s'est entretenue avec le père Vladimir Kalnar.
Tato událost sama o sobě byla důvodem, že do Staré Boleslavy začaly spontánně putovat.
L'événement a été à l'origine des processions spontanées qui se formaient sans cesse vers le sanctuaire de Stará Boleslav. Saint Wenceslas fournit l'exemple d'un saint tchèque qui n'avait pas besoin d'être canonisé officiellement, car les hommages lui étaient rendus spontanément. Cette tradition est liée à l'endroit de la première tombe de Wenceslas, inhumée à l'endroit même où il a saigné après avoir été martyrisé devant l'entrée de l'église Saint Cosme et Saint Damien. Trois ans plus tard, son corps a été exhumé et transféré au château de Prague.
C'est Boleslav lui-même qui a fait transférer les reliques de son frère, conscient de le doter de l'indispensable attribut du saint au Moyen-Âge. Wenceslas est devenu le deuxième saint tchèque après sa grand-mère, Ludmila. C'est à cette dernière qu'il y a un objet symbolique et sacré qu'on appelle Palladium des pays de la couronne de Bohême et qui est considéré comme une icône de protection spirituelle et un emblème de la Bohême. La copie de ce relief en or représentant la Vierge Marie et l'enfant Jésus sera l'un des cadeaux faits au pape à l'occasion de sa visite à Stará Boleslav. Nina Novákova, qui est la guide dans la basilique Saint-Wenceslas, élucite la genèse de cet objet de culte peu connu même des Tchèques et que Wenceslas, selon la légende, portait sur lui au moment de son assassinat.
Když byl potom pokřtěn malý Václav, tak mu tu ikonku darovala kněžna Ludmila.
Wenceslas, quand il était enfant, a reçu cette icône à l'occasion de son baptême de sa grand-mère Ludmila. L'icône, qui évoque les origines byzantines, est parvenue en pays tchèque en 863 avec l'un des deux évangélisateurs, Méthode, qui a baptisé le prince Boževoj, l'époux de la princesse Ludmila. Le plus important sur cette icône, c'est son cadre métallique d'origine qui est resté intact, contrairement au panneau en bois qui a été remplacé par un relief de la Madone à l'enfant Jésus. Et c'est cet objet qui est dorénavant appelé le Palladium des pays tchèques. Depuis le XIIe siècle, ce relief est devenu un autre objet de culte, marial, qui faisait venir à Stará Boleslav des milliers de pèlerins, et c'est à eux qu'une nouvelle église de l'Assomption de la Vierge Marie de style baroque y a été érigée en 1617 par Giovanni Maria Filippi.
Zaznělo tady už jméno Giovanni Mario Filippiho.
Ces deux traditions de Saint Wenceslas et celle mariale ont été intégrées dans la conception du podium installé sur le dit près de Prévost où la messe en plein air sera célébrée par le pape Benoît XVI. Le terrain, qui peut accueillir jusqu'à 100 000 personnes, se trouve dans la banlieue nord-ouest de Boleslav. Il forme un triangle fictif avec les deux centres spirituels de la ville, la basilique Saint Wenceslas et l'église de l'Assomption de la Vierge Marie. Le motif de la paume de la main ouverte de Christ se reflète dans la conception de l'amphithéâtre érigé spécialement pour l'occasion, explique son architecte Petr Scheffel.
Une des particularités de cet endroit, c'est que c'est un terrain légèrement vallonné qui crée un amphithéâtre naturel avec une saillie naturelle sur laquelle nous avons installé le podium pour le Saint-Père. Cette saillie se trouve au centre du pré et à partir de là s'ouvre, comme une main ouverte, les secteurs pour les croyants.
C'est à la basilique Saint-Wenceslas, toute discrète et souvent confondue avec l'église de la Vierge Marie, que Vladimir Kalnar termine notre visite de Stará Boleslav.
La basilique Saint-Vincenzo est l'une des constructions sacrales les plus précieuses à l'échelle du pays. Depuis 1052, date de son édification, sa disposition n'a pas changé. Elle a résisté à de nombreuses catastrophes et sinistres, ce qui peut être considéré comme un témoignage illustrant la force de la tradition de la Saint-Vincenzo. Un exemple pour tous, la basilique a failli être détruite durant la guerre de 30 ans lorsque les troupes suédoises l'avaient aménagée en écurie. En dépit de cette profanation, elle a retrouvé son éclat et son aspect d'origine. La basilique Saint-Vincenzo est également la plus ancienne basilique à laquelle a été attribué le titre de basilique mineure, ce qui est une expression de l'importance attachée à tel ou tel sanctuaire situé en dehors du Saint-Siège.
Je rappelle que ce 28 septembre est en République tchèque la fête nationale consacrée à Saint-Vincenzo. Par ailleurs, en ce qui concerne les fêtes nationales, la République tchèque se distingue des autres pays de l'Union européenne, si dans ces derniers elles sont liées le plus souvent à des fêtes du Seigneur ou de la Vierge. En Tchéquie, on célèbre notamment les fêtes des saints. Pour beaucoup, il s'agit là d'une véritable spécificité tchèque. Dans aucun pays catholique, le culte des saints ne joue un rôle aussi important que dans les pays tchèques. On y trouve même des saints qui constituent un véritable symbole de la nation et parmi eux, comme nous l'avons dit, une place privilégiée revient à Saint-Vincenzo. On peut dire en effet qu'aujourd'hui, comme de par le passé, à des moments importants, voire fatidiques de leur histoire, les Tchèques se réfèrent à Saint-Vincenzo. Par ailleurs, la principale place de Prague, dominée en haut par une statue qui lui est dédiée, porte son nom. C'est aussi là-bas que se sont déroulées les principales manifestations de la révolution de velours de 1989 et que retentissaient par la même occasion des chorales ayant pour thème Saint-Vincenzo. La liste des saints tchèques est longue. Ce sont les saints Adalbert et Procope et sainte Agnès qui semblent représenter, outre saint Vincenzo, les principaux saints tchèques, ceux que la nation aime le plus. Parmi les femmes, on notera encore une autre grande figure de l'histoire médiévale tchèque, sainte Ludmila, grand-mère de Vincenzo, assassinée par sa belle-fille Drahomira. La canonisation tchèque probablement la plus célèbre a été celle du vicaire général Jean de Nepomucène, Jan Nepomucki, qui a eu lieu à l'époque du baroque flamboyant. Il y a aussi pas mal de canonisations qui n'ont pu être menées à bien qu'après la chute du régime communiste. Elles concernent la princesse Přemyslíd Agnès, l'aristocrate Zdislava et le prêtre Jan Sarkander. Pendant tout un millénaire, le culte de Vincenzo, saint patron de la Bohème, continue à résister au temps, à l'oubli et aux vagues de sécularisation. Il est même sorti vainqueur du combat contre l'idéologie communiste. Au cours de la seconde moitié du XXe siècle, les historiens officiels cherchent en vain à minimiser et problématiser le rôle de ce prince dans l'histoire du peuple tchèque et aujourd'hui encore saint Vincenzo continue d'être considéré comme un symbole de la nation tchèque et un élément clé de la continuité de son histoire. Václav Richter expliquera que saint Vincenzo est invoqué dans beaucoup de chants et aussi dans un des plus anciens chants de Bohême, dont la création est située à la fin du XIIe siècle. Yeah.
Saint Venceslas, duc de Bohême, notre prince, prie pour nous, Dieu et le Saint-Esprit, Kyrie eleison. La cour céleste est merveilleuse, bienheureux qui y va, la vie éternelle, le fait clair du Saint-Esprit, Kyrie eleison. Nous demandons ton aide, aie pitié de nous, réconforte ceux qui sont tristes, chasse tout le mal, Saint Venceslas, Kyrie eleison. Au XXe siècle, cette prière ardente, qui est aussi un hymne à la gloire de Saint Venceslas, personnage historique et prince mythique, a inspiré le compositeur Josef Suk. Il est l'auteur d'une méditation sur l'ancien choral tchèque en l'honneur de Saint Venceslas. La méditation a été écrite en été 1914, donc au début de la Première Guerre mondiale. C'est une composition assez exceptionnelle dans la création de Josef Suk, car il n'utilisait que rarement les citations des œuvres d'autres compositeurs et n'aimait pas beaucoup la forme des variations. Suk a choisi la version plus récente et très répandue du chant, dont la notation se trouve dans la biographie de Saint Adalbert, Rosa Bohemica, de 1668. Il a divisé la mélodie du chant en quatre parties. C'est la troisième partie qui est la plus importante, dit le musicologue Jiří Berkovets, car elle correspond aux paroles suivantes du chant original. Ne nous laissez pas périr, ni notre postérité. Suk inscrivit ces paroles en tête du manuscrit en les accompagnant de la mélodie du secteur correspondant du choral. Cette œuvre est une méditation profonde sur le sens de l'hymne que l'on chantait avec espoir et foi au moment glorieux, mais aussi au moment douloureux de la vie de la nation. Et cela vaut tant pour la conception morale de l'œuvre que pour son expression purement musicale.
C'était donc l'émission spéciale de Radio Prague consacrée à la fête de Saint Venceslas. Notre programme se poursuit avec Alexis Rosenzweig.
Et oui, Alena, mais pour la fin de cette émission spéciale, nous allons parler d'un tout autre sujet, car comme partout ailleurs en Europe, le mois de septembre a été marqué par la rentrée des classes en République tchèque.
Mais malheureusement, ce n'est pas la rentrée pour tous. En effet, beaucoup d'enfants en âge préscolaire, âgés de 2 à 5 ans, restent en effet chez eux, avec leur maman, ici, en République tchèque. La faute, dans de nombreux endroits du pays, à un nombre de places insuffisant dans les écoles maternelles publiques. C'est ce que nous explique le reportage dans la banlieue de Prague, réalisé par Guillaume Narguet.
Katerzyna Nohelova est mère de deux enfants âgés de 4 et 2 ans. Elle vit à Rostocki, une petite ville de 7000 habitants située à quelques kilomètres au nord de Prague. Malgré les trois écoles maternelles publiques existantes dans la commune, pour une capacité totale d'accueil de près de 250 enfants, Katerzyna n'est pas parvenue à inscrire son premier enfant pour cette rentrée et des dizaines d'autres familles sont dans la même situation qu'elle.
Mon garçon n'a pas été accepté parce que je suis actuellement en congé parental avec mon deuxième enfant, une fille de 2 ans. Dans cette école, il y avait 110 demandes d'inscription, mais il y a seulement de la place pour 30 enfants.
Aussi paradoxal que cela puisse paraître, bien que la République tchèque continue d'afficher une des natalités les plus faibles en Europe, avec actuellement un indice de fécondité d'à peine 1,5 enfants par femme, le pays traverse depuis quelques années une période de baby-boom. Les couples tchèques ne font pourtant pas beaucoup plus d'enfants qu'au début des années 2000, mais la majorité des parents actuels sont nés au début des années 1970, période alors de forte natalité en Tchécoslovaquie communiste. Katerzyna appartient à cette génération.
Moi et mon mari, nous sommes tous les deux ce qu'on appelle les enfants du président communiste Husák. Nous étions une forte génération et c'est pourquoi il y a aujourd'hui beaucoup d'enfants.
S'il y a aujourd'hui l'augmentation du nombre d'enfants, la situation est avant cela longtemps restée contraire. C'est ce qui explique pourquoi beaucoup de communes, faute d'élèves, ont décidé de fermer des classes, voire des écoles maternelles entières. Ce sont ces fermetures qui font que les écoles restantes disposent désormais de capacités d'accueil insuffisantes. Yana Sprajova est directrice de l'une des trois écoles à Rostocki. Son établissement peut accueillir 34 enfants. Au printemps dernier, elle a reçu près de 100 demandes d'inscription, mais seuls 13 nouveaux enfants ont pu être acceptés. Yana Sprajova le regrette, mais précise comment s'est déroulée la sélection.
Le premier critère selon la loi est que l'enfant soit âgé au moins de 5 ans. Les écoles sont tenues de scolariser les enfants en dernière année de maternelle avant leur entrée à l'école élémentaire. Pour le reste, les conditions d'accueil diffèrent selon les écoles. Chez nous, par exemple, si un enfant d'une famille est déjà scolarisé dans notre école, nous acceptons également son petit frère ou sa petite sœur. Ensuite, il faut que les deux parents travaillent et que l'enfant soit âgé d'au moins 3 ans.
Pour tous les autres, si toutes ces conditions ne sont pas remplies, ce n'est donc pas de chance. Pour remédier à cette situation et face à l'absence de réaction d'un gouvernement plus préoccupé à faire des économies, diverses écoles maternelles privées, dont certaines au fonctionnement très original, ont vu le jour. À Rostocki, la municipalité, qui manque de moyens pour construire une nouvelle école, a également innové en créant, au printemps dernier, ce qui a vite été appelé une école container. Container parce qu'il s'agit de bâtiments provisoires et démontables, semblables à des abris de chantier. L'idée peut surprendre, mais la directrice de l'école, Yana Smrajova, qui accueille ainsi 25 enfants supplémentaires, y est très favorable.
Je pense que c'est une excellente solution dans l'état actuel des choses. Ce qu'on appelle le baby-boom ne va durer que quelques années. Si on construit une nouvelle école maintenant, il va falloir la fermer dans 5 ou 6 ans. Je suis institutrice à Rostocki depuis plus de 20 ans. Quand j'ai commencé, il y avait 5 écoles maternelles et 2 ont dû être fermées depuis parce qu'il n'y avait plus assez d'enfants. L'avantage de cette école container est que son montage est très rapide. L'autre gros avantage est que les bâtiments sont seulement loués. Du coup, cela ne sera pas gênant lorsqu'il y aura de nouveau moins d'enfants de fermer l'école.
En attendant d'en arriver là, et malgré les efforts entrepris, beaucoup de femmes tchèques, à Rostocki comme ailleurs, restent encore avec leurs enfants à la maison. Pour nombre de familles, les écoles privées restent chères. Elles le sont d'autant plus qu'il est souvent compliqué pour les femmes de concilier famille et travail. Selon les statistiques, le taux d'emploi à temps partiel est en effet l'un des plus faibles au sein de l'Union européenne. Bref, pas tous les jours facile d'être une femme tchèque, qu'elle soit au foyer ou au travail.
Un reportage signé Guillaume Narguet qui termine ce programme spécial composé et produit par Radio Prague à l'occasion de la Saint-Venceslas. Merci à toutes et à tous de votre attention. Vous le savez, vous pouvez réécouter cette émission ou une autre émission des archives du programme en français de Radio Prague sur notre site internet. Vous connaissez déjà l'adresse, sinon je vous la redonne, www.radio.cz. www.radio.cz. Après, il suffit de cliquer sur l'onglet français et vous pouvez retrouver nos émissions, les écouter en ligne ou les télécharger. Je vous remercie donc pour votre fidélité et votre attention et on se retrouve demain, même heure, même fréquence. Bonne journée ou bonne soirée où que vous soyez dans le monde. Au revoir, Nasredano.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 kHz, at 1030 hours on 9880 kHz. At 1300 hours on 11600 kHz, at 1600 hours on 9740 kHz, at 1700 hours on 9740 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Central and Western Africa can tune in at 2130 hours UTC on 9410 kHz. In the Near East and Middle East, you can listen at 0900 hours UTC on 17650 kHz and at 0330 hours on 9445 kHz. You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio.